أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Aujourd'hui, encore une fois, je vais relater des détails supplémentaires concernant l'expédition de Tabouk. On a mentionné l'histoire d'un homme nommé Jad bin Qais. Jad bin Qais était aussi un des hypocrites qui, après Abdullah bin Ubay, était le deuxième grand chef des hypocrites. En collaboration avec Abdullah bin Ubay, il était engagé dans diverses conspirations. C'était lui qui n'avait pas non plus prêté allégeance lors du traité de Hudaybiyah. Il s'est également présenté au service du saint prophète Mohammed P.S.A. lui et il a présenté une excuse pour ne pas se rendre à la bataille. Mais cette excuse était également d'un type étrange et absurde. Il est décrit que lors de l'expédition de Tabouk, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Jad bin Qais, qui était le chef des Banu Salama, que « Ô Jad, est-ce que tu vas te rendre au combat contre les Banu Asfar, c'est-à-dire les Romains, cette année-ci » Il a répondu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Accordez-moi une dispense et ne me mettez pas à l'épreuve. » Je jure devant Dieu que mon peuple sait très bien que personne ne chérit les femmes plus que moi. Et je crains que si je voyais les femmes des Banu Asfar, c'est-à-dire les Romaines, je ne puisse me retenir. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a détourné le regard après avoir entendu cette réponse absurde. Et il a dit « Très bien, vas-tu, tu as la permission de ne pas te rendre à la bataille. » Son fils se nommait Abdullah bin Jad, il était un compagnon de Badr et il était très sincère. Il est venu trouver son père et il lui a dit ceci, « Pourquoi as-tu refusé l'invitation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ? Par Allah, il n'y a personne parmi les Banu Salma qui soit plus riche que toi. Tu ne pars pas toi-même au combat et tu ne prends personne avec toi, c'est-à-dire que tu ne prends pas en charge l'équipement de quiconque pour le djihad. » Il a répondu, « Oh mon fils, qu'est-ce qui m'arrive à vouloir partir vers les Banu Asfar en cette période de chaleur intense et de difficulté ? Mon fils, même en restant chez moi, dans ma région, je tremble de peur des Romains. » Voilà la réponse qu'il a donnée à son fils. « Comment pourrais-je donc aller sur leur territoire pour combattre de telles personnes ? Même assis à la maison, j'ai peur d'eux. Oh mon fils, par Dieu, je suis très savant, je suis expérimenté, je connais très bien les guerres. » On dirait qu'il disait qu'il n'est pas sage de se battre contre une superpuissance à l'instar de l'Empire romain. Après avoir entendu tout cela, son fils sincère s'est fâché. Et il a déclaré, « Non par Allah, c'est de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie qui t'empêche de te rendre à la bataille. Par Allah, le Coran sera certainement révélé à ton sujet. » On raconte que son père a ramassé sa chaussure et a lancé sa chaussure sur le visage de son fils. Son fils est parti de là et ne lui a pas adressé la parole. Selon un autre récit, Le verset suivant a été révélé à propos de Jad bin Qais. Et parmi eux, il y en a qui dit « Donne-moi une dispense et ne me jette pas dans la tentation ». On dit que par la suite, Jad bin Qais s'est repenti. Et son repentir était sincère et qu'il est décédé durant le califat d'Othman. Par la suite, il n'était plus un hypocrite, mais il était devenu un musulman sincère. Les comploteurs se réunissaient quelque part pour ourdir des complots. J'ai mentionné des détails à ce propos auparavant, notamment qu'ils avaient créé un centre. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ordonné qu'on détruise ce centre. Il est dit à ce propos qu'à Médine, les hypocrites et les juifs étaient occupés à conspirer, c'est-à-dire à répandre de fausses rumeurs pour tenter de décourager les musulmans. Et ils faisaient de leur mieux pour empêcher les musulmans de partir à la bataille. Et pour cela, ils usaient de toutes sortes de stratagèmes. Les croyants sincères et à la fois fermes étaient non seulement conscients de ce rôle ignoble des hypocrites, mais ils les surveillaient également, et les rapports sur ces personnes parvenaient au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, par sa miséricorde et sa compassion, pardonnait à ces personnes, mais lorsqu'un complot dangereux était ourdi contre l'organisation, une action était entreprise avec une grande sagesse, mais aussi avec une grande fermeté, pour l'anéantir. Il faut se souvenir de ce principe fondamental. Si un complot est ourdi contre le système, il faut agir avec fermeté. En pareil cas, il n'est plus question d'indulgence. Ainsi, une action similaire a été entreprise à cette occasion. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a su que les hypocrites se rassemblaient dans la maison de Souaylim, qui était un juif. Cette maison se trouvait tout près de la source dite Jassoum. Jassoum, qui est aussi nommé Bir Jassim, il s'agit d'un puits à Médine. Et ces personnes dissuadaient les gens d'accompagner le messager d'Allah, et ce soit lui, dans l'expédition de Tabouk. En réalité, toutes les conspirations de propagande négative visant à empêcher les musulmans de Médine de participer à cette bataille étaient préparées de ce centre. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Talha bin Ubaydullah avec quelques personnes vers cet endroit. Le saint prophète a ordonné que la maison de Souaylim soit incendiée, c'est-à-dire que la maison soit détruite et brûlée. Il s'agissait d'une maison faite de matériaux traditionnels. Talha a suivi l'ordre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et toutes les personnes présentes sur les lieux ont pris la fuite. Parmi eux, il y avait un certain Dharag bin Khalifa. Il était de mèche avec les hypocrites. Dharag est monté sur le toit de sa maison et il a sauté par l'arrière. Ainsi donc, il a eu une fracture à la jambe et au poignet. La clémence et le pardon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont prévalu au point qu'il n'a pas autorisé l'arrestation ni la punition d'aucun d'entre eux. En tout cas, ce centre de conspiration a été détruit. Tout le monde était occupé à se préparer pour le voyage à Tabouk. Les contributions financières se poursuivaient afin de couvrir les dépenses du voyage. Les compagnons pauvres et nécessiteux se présentaient au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on les aidait à se préparer pour le voyage. De même, les gens aisés fournissaient des montures et autres aux compagnons qui n'en possédaient pas. Car sans monture, ce voyage n'aurait pas été possible. Et d'ailleurs, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait déclaré que seul celui qui est robuste est capable de supporter les difficultés du voyage doit nous accompagner. Il doit également disposer d'une monture et de provisions. À cette occasion, quelques compagnons se sont présentés en pleurant devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont demandé une monture ou des montures. D'ailleurs, ils en avaient besoin. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré « Je n'ai rien à vous offrir pour vous aider à accomplir ce voyage. » Sur ce, ses compagnons sont repartis en pleurant. Allah décrit dans le Saint-Coran l'état de sincérité, de fidélité et d'impuissance de ses compagnons en ces termes. Wala ala alladhina idha ma atauka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilakum alayhi. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Et il n'y a pas non plus de reproche à faire à ceux qui se sont présentés à toi lorsque la bataille a été déclarée afin que tu leur fournisses des montures. Mais tu as répondu, je ne trouve rien sur quoi vous faire monter. Après avoir entendu cette réponse, ils sont partis, les yeux pleins de larmes, de tristesse. Ils sont partis tout tristes parce qu'ils n'avaient rien à dépenser pour la cause d'Allah. Ceci est un verset de la sourate At-Tawba. Cette privation et leurs nombreux pleurs les ont fait mériter le nom de Bakaoun, les grands pleureurs dans les livres d'histoire et de biographie. Il y a des divergences d'opinion concernant leur nombre exact. Certains ouvrages mentionnent 18 noms. Cependant, la plupart s'accordent sur 7 noms. Parmi eux se trouvaient Salim bin Umar, Ulba bin Zayd, Abu Layla, Abdurrahman bin Kaab, Amr bin Humam, Abdullah bin Mughaffal al-Muzni, Harami bin Abdullah et Irbaz bin Sariya. Selon un récit, Yamin bin Umar bin Kaab al-Nazri a rencontré Abu Layla, Abdurrahman bin Kaab et Abdullah bin Mughaffal en cours de route. Ces deux derniers étaient en pleurs. Il leur a demandé « Pourquoi pleurez-vous ?» Ils ont répondu « Nous sommes partis voir le messager d'Allah pour qu'il nous offre des montures. Mais nous n'avons trouvé aucune monture auprès de lui et nous n'avons pas assez de biens pour nous procurer des montures et pour nous rendre accomplir le djihad avec le saint prophète Mohammed B.S.A.W. » Sur ce compagnon leur a offert un chameau qu'on utilisait pour transporter de l'eau. Ils ont tous deux placé une selle sur le chameau. De plus, il leur a offert quelques dattes comme provision. Ainsi, tous deux sont partis en djihad avec le saint prophète Mohammed B.S.A.W. Lorsque Abbas a su à ce propos, eh bien, il a fourni à deux compagnons des montures et des provisions. Othman a offert des montures et des provisions aux trois restants. Ainsi, ces 7 personnes sont parties avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De même, des membres de la tribu d'Abu Moussa al-Ash'ari sont partis demander des montures au saint prophète Mohammed B.S.A.W. Ils étaient 6. Ils ont envoyé Abu Moussa al-Ash'ari en tant que leur représentant auprès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète leur a donné la même réponse, notamment que « je n'ai rien à vous offrir ». Selon le récit d'Al-Bukhari, le saint prophète a fait ce serment qu'il ne possédait rien, qu'il ne pouvait rien offrir à ces gens. Sur ce, ces gens sont repartis de là en pleurant. Mais pendant ce temps, le saint prophète, Mohammed B.S.A.W., a acheté des chameaux de Sa'ad bin Ubada et il a convoqué Abu Moussa al-Ash'ari. Et il a dit, « Prends ces chameaux, prends-en et donne-en à tes compagnons. » Abu Moussa al-Ash'ari a lui-même relaté les détails de cet événement. Ainsi donc, il est dit dans Al-Bukhari que Abu Moussa al-Ash'ari a déclaré qu'il était venu auprès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec certains de la tribu al-Ash'ari, afin de lui demander des montures. Le saint prophète a répondu par Dieu, « Je ne vous donnerai pas de montures. » Je n'ai pas d'animaux à vous donner pour que vous puissiez les utiliser comme monture. Entre-temps, des chameaux du butin ont été présentés à l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui. Il a demandé des nouvelles à notre propos. Il a dit « Où sont les Ash'ari ?» et il a ordonné de nous offrir 5 chameaux aux bosses blanches. Quand nous sommes partis, nous nous sommes dit que certainement ce que nous avons fait ne sera pas source de bénédiction pour nous. Nous sommes revenus vers le Saint-Prophète avec cette pensée et nous avons dit que nous avions demandé que vous nous offriez des montures et vous avez juré que vous n'allez pas nous en offrir. Est-ce que vous avez oublié cela? Notamment que vous avez fait ce serment que vous n'allez pas en offrir. Le Saint-Prophète a répondu, ce n'est pas moi qui vous a offert ces montures, mais c'est Allah qui vous a offert ces montures. Et par Allah, chaque fois que je fais un serment et que je vois autre chose qui est meilleure, eh bien, je ferai certainement, si Allah le veut, ce qui est meilleur. Et je paierai l'expiation pour ce serment. Il voulait dire tout simplement que j'avais prêté ce serment, mais ensuite, on a trouvé une solution. Et c'est Allah qui a fourni ces moyens. Et même si j'ai un doute sur le fait d'avoir fait un tel serment, et que je vois quelque chose de meilleur devant moi, eh bien, je vais rompre ce serment et je vais payer l'expiation pour ce serment. Selon un autre récit, Abu Moussa Ash'ari relate que ses compagnons l'avaient envoyé au Saint-Prophète Mohammed B.S.W. pour qu'il lui demande des montures. Il souhaitait participer à la Jaish-e Usra, c'est-à-dire à cette armée de difficultés. Il voulait partir en compagnie du Saint-Prophète Mohammed B.S.W., c'est-à-dire pour l'expédition de Tabouk. J'ai dit au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mes compagnons m'ont envoyé vers vous pour que vous leur offriez des montures. Il a répondu par Allah, je n'ai pas de monture à vous offrir. Et il s'est trouvé que je lui ai fait cette demande à un moment où le Saint-Prophète, paix soit sur lui, était quelque peu en colère, mais je l'ignorais. Je suis retourné de là, triste du refus du Saint-Prophète, Mohammed, paix soit sur lui, et de la crainte que l'envoyé d'Allah ne soit fâché contre moi dans son cœur. Je suis retourné auprès de mes compagnons. J'ai relaté ce que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, avait déclaré. Et peu de temps après, j'ai entendu Bilal appeler Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais. J'ai répondu à Bilal. Il m'a dit, va voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il t'appelle. C'était la façon d'annoncer une convocation à l'époque. Il n'y avait pas de haut-parleur à l'époque. C'est comme cela qu'on faisait les annonces. Je me suis présenté au Saint-Prophète. Il m'a dit, prends ces paires de chameaux. Il y avait en tout 6 chameaux et il les avait achetés à l'instant même à Saad. Il m'a dit, va, emmène ces chameaux à tes compagnons et dis-leur qu'Allah ou que le messager d'Allah vous les offre comme monture. Montez dessus. Abu Moussa Ash'ari déclare que j'ai pris ces chameaux, je suis parti voir mes compagnons. J'ai dit que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vous offre ces chameaux comme monture. Mais par Allah, je ne vous laisserai pas monter tant que l'un d'entre vous ne m'accompagnera pas auprès de celui qui a entendu cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ne croyez pas que je vous ai rapporté quelque chose de mon propre chef et que le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'avait pas énoncé ce refus dans un premier temps. Mes compagnons m'ont répondu que nous te considérons comme véridique. Abu Moussa avait rapporté que le Saint-Prophète, paix soit sur lui, avait dans un premier temps refusé d'offrir ses chameaux. Il était très prudent et de peur qu'il ne pense que la première fois il avait parlé de son propre chef, parce que par la suite le Saint-Prophète, paix soit sur lui, avait envoyé ses chameaux. Il a dit que s'il avait parmi vous quelqu'un qui était présent à ce moment-là, faites-le venir pour qu'il serve comme témoin. Que le Saint-Prophète, Mohammed paix soit sur lui, avait d'abord donné cette réponse, ensuite il a envoyé ses chameaux qui étaient disponibles. Quoi qu'il en soit, ses compagnons déclaraient que « Nous te tenons pour sincère et nous ferons certainement ce que tu juges préférable. » Abu Moussa a pris avec lui quelques-uns de ceux qui étaient présents lorsque le Saint-Prophète, paix soit sur lui, avait exprimé son premier refus et par la suite son acceptation de leur accorder ses chameaux. Et ces personnes ont confirmé exactement le récit qu'avait rapporté Abu Moussa. Hadrat Muslim Maoud Radio Talanhu explique la raison du serment du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui et l'importance des serments. Il explique ceci. Ici, une question se pose. puisqu'il ne possédait pas de monture, pourquoi est-ce qu'il avait fait ce serment que par Dieu, je ne te donnerai pas de monture? D'après le Saint-Coran, d'après les hadiths, d'après les récits historiques, il est clair que le Saint-Prophète, paix soit lui, ne disposait en réalité d'aucune monture. Et le sens d'un serment est qu'une chose existe mais qu'on refuse de la donner. Peut-on donc jurer que je ne vais pas me rendre sur la lune ou que je ne vais pas me rendre vers le soleil? Ou est-ce que quelqu'un va jurer que je ne vais pas avaler un éléphant d'un seul coup? De même, s'il n'avait pas de monture, pourquoi est-ce qu'il avait prêté un tel serment? La réponse est que les peuples non civilisés ou peu cultivés ne croient pas à la parole de quelqu'un tant qu'il ne prête pas serment. Il m'arrive parfois de rencontrer des gens qui disent « Aidez-nous à accomplir telle tâche ». Je réponds à ces personnes que je ne peux pas le faire. Ils répliquent « Vous pouvez tout faire », comme s'ils voulaient dire que « Je suis capable de le faire, mais que je suis en train de mentir en disant que je ne peux pas le faire ». De même, ces gens étaient incultes et incultivés. Ils étaient des nouveaux venus et ils ignoraient la véracité, la dignité, la grandeur et la noblesse des mœurs du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il leur a dit qu'il n'avait pas de monture, eh bien, ils ont cru qu'il en possédait mais qu'il refusait d'en donner. C'est pourquoi ils ont insisté en disant que vous êtes un roi. Comment se fait-il que vous n'avez pas de monture? De plus, les Arabes ont l'habitude de ne pas être satisfaits d'une chose tant qu'un serment n'est pas prêté. Et pour des choses insignifiantes, ils disent sans cesse « Wallah, Billah, Thumma Tallah ». La réponse à leur insistance à demander une monture était donc que le Saint-Prophète Mohammed lui prête serment. Comme ces gens avaient considéré sa réponse comme une excuse et comme un prétexte, il a prêté serment pour les satisfaire et pour se débarrasser d'eux. Et ils sont partis. Ensuite, par la suite, le Saint-Prophète a reçu d'autres montures et il les a de nouveau appelés et il leur a offert ses montures. Ce serment était pour leur dire que « ne perdez pas mon temps ». C'était en fait une expression de sa part. Bien qu'il ne l'ait pas dit verbalement, l'expression était qu'il ne fallait pas perdre son temps et ne pas insister. Et il leur a offert ses montures parce que c'était une occasion de faire le bien et il ne voulait pas gâcher cette occasion. Le verset 92 de la sourate At-Tawba que j'ai cité a été commenté par Hadrat Muslim Maud Radiotanhu en ces termes. « Wala ala alladhina idha ma atawka li tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilakum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min adami hazanan alla yajidu ma yunfiqoun » La traduction déjà citée se lit comme suit. « Nul grief non plus contre ceux qui, lorsqu'ils viennent te trouver pour que tu les fasses monter à dos de monture, tu dis « Je ne trouve rien pour vous faire monter. » Ils s'en retournent, les yeux débordants de larmes, affligés de ne pas trouver de quoi dépenser dans la voie d'Allah. Dans son commentaire, Hadrat Muslim Maud Radotalanhu a écrit que ce verset est général dans son application, mais que les personnes auxquelles il fait allusion sont sept musulmans pauvres, désireux de partir au djihad, mais n'ayant pas les moyens de satisfaire leurs souhaits. Ces gens se sont présentés au Saint-Prophète Mohammed paix soit lui et lui ont demandé de leur procurer des montures. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu qu'il était désolé, mais qu'ils ne pouvaient rien faire pour eux. Cela les a beaucoup affligés. Les larmes leur sont montées aux yeux, et ils sont repartis ainsi. On raconte qu'après leur départ, Othman leur a offert 3 chameaux, et d'autres musulmans leur ont offert 4 chameaux par la suite. Le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui a donné un chameau à chaque personne. Le Saint-Coran relate cet événement afin de mettre en contraste la sincérité de ces musulmans pauvres avec ceux qui étaient riches et qui avaient le moyen de voyager, mais qui cherchaient de faux prétextes. D'un côté, voici l'état des pauvres avec leur ardeur, leur passion et leur foi, et de l'autre, les riches qui se disent musulmans, mais qui sont pleins d'hypocrisie. Ce verset montre également que ceux qui sont restés à Médine n'étaient pas tous des hypocrites. Certains n'avaient pas les moyens de partir et ils sont restés en arrière. Il y avait de même des musulmans sincères parmi eux, et ils n'ont pas pu partir parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Hadrat Muslim Aoud Radwatranhu a déclaré que les musulmans offraient des sacrifices avec sincérité et enthousiasme suite à l'annonce du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce voyage en Syrie. Où les pauvres musulmans auraient-ils trouvé du matériel de guerre? Ils ne possédaient rien. Le trésor du gouvernement était vide. Seuls leurs frères aisés pouvaient leur venir en aide. Ainsi, chacun essayait de se surpasser dans le domaine du sacrifice. Ce jour-là, Othman a offert la grande partie de son argent, soit 1000 dinars, au saint prophète Mohammed P.S.A.L.U. Hadrat Muslim Maud déclare qu'à son époque, cette somme valait 25 000 roupies. Aujourd'hui, la valeur s'élève à des millions. De même, les compagnons ont fait des dons selon leurs moyens et ils ont fourni aux musulmans pauvres des montures, des épées ou des lances. Les compagnons avaient un tel zèle pour le sacrifice que des Yéménites qui s'étaient convertis à l'islam et qui avaient migré à Médine étaient dans une grande pauvreté. Ils se sont présentés devant le saint prophète Mohammed P.S.A.L.U. et ils ont déclaré « Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, emmenez-nous avec vous. Nous ne souhaitons rien, nous souhaitons seulement avoir les moyens de parvenir là-bas. » Le Saint-Coran évoque ces personnes en ces termes, comme lu précédemment. Wala al-ladina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi. Tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun péché pour ceux qui ne participent pas à cette bataille. Ceux qui viennent à toi pour que tu leur fournisses les moyens d'y parvenir. Mais tu leur as dit que tu n'avais pas des moyens pour les faire parvenir là-bas. C'est là qu'ils se sont levés, ils ont quitté ton assemblée, les yeux en larmes. Triste de ne pas avoir de biens à dépenser pour servir l'islam ce jour-là. Abu Moussa était leur chef. On lui a demandé ce qu'il avait demandé au saint prophète Mohammed P.S.A.L.U. Il a répondu « Par Dieu, nous n'avons pas demandé de chameaux, nous n'avons pas demandé de chevaux. Nous avons tout simplement dit que nous étions pieds nus. Nous n'avions même pas de chaussures, nous n'avions même pas de bottes. Et nous ne pouvons pas accomplir un si long voyage à pied, c'est-à-dire les pieds nus. Si seulement on pouvait avoir des paires de chaussures, nous allons les porter et nous allons courir rejoindre nos frères pour cette bataille. » Tel était leur sentiment. On dit qu'à l'occasion de cette expédition de Tabouk, le saint prophète Mohammed P.S.A.L.U. avait désigné un remplaçant à Médine. Il existe différents récits à ce propos. Selon un récit, le saint prophète Mohammed S.A.L.U. avait nommé Mohammed bin Maslama comme son émir à Médine. On trouve en outre les noms de Siba bin Urfata, on trouve aussi le nom de Ali et de Abdullah bin Umm Maktoum. Ces trois noms sont également mentionnés. Comment concilier et comment harmoniser ces différents récits? Sous quel angle accepter ces quatre noms et comment s'assurer de l'exactitude de ces récits? Une possibilité est que ces quatre personnes ont été désignées comme remplaçants, mais avec des responsabilités différentes. Ainsi donc, Ali radhiyallahu anhu était responsable de prendre soin de la famille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed bin Maslama était responsable des affaires générales des habitants de Médine, et Abdullah bin Umm Maktoum était responsable de diriger les prières. Siba bin Urfata avait d'abord été nommé le suppléant général de Médine. Ensuite, il a été remplacé par Mohammed bin Maslama. Étant donné que c'était un long voyage, le saint prophète Mohammed P.S.A.L.U. a ordonné à Ali de rester à Médine pour prendre soin de sa famille et pour répondre aux besoins domestiques de la famille du saint prophète P.S.A.L.U. Les hypocrites dont le travail consistait à calomnier et à critiquer ont commencé à colporter des rumeurs sur le fait que Ali avait été laissé à Médine, disant qu'il était un fardeau pour le saint prophète Mohammed P.S.A.L.U. C'est pour cette raison que le saint prophète ne l'avait pas pris. En entendant ces critiques des hypocrites, Ali, tout inquiet, a pris ses armes et s'est présenté au saint prophète, paix soit lui. Le saint prophète, Mohammed, paix soit lui, était encore à Djurfa, à 3 km de Médine. Ali a mentionné ses inquiétudes et son angoisse en disant que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, le laissait en arrière avec des femmes et des enfants. Alors qu'il est robuste et qu'il est respecté, le saint prophète, paix soit lui, a réconforté Ali en prononçant une phrase qui a magnifié à la grandeur et à la splendeur de Ali radhiyallahu anhu. Il a dit à Ali radhiyallahu anhu, « Est-ce que cela ne te suffit pas d'être pour moi ce que Haroun était pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi ?» C'est-à-dire, « Oh Ali, n'es-tu pas satisfait d'être pour moi ce que Haroun était pour Moïse, sauf qu'il n'y aura pas de prophète après moi ?» C'est-à-dire, quand Moïse est allé sur le mont, Aaron l'a remplacé. Mais Aaron était également un prophète. Mais toi, tu seras mon remplaçant, mais tu ne seras pas un prophète. Voici les détails concernant le nombre de musulmans qui étaient partis pour Tabouk. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, après avoir pris toutes les précautions matérielles possibles, pour préparer la bataille, s'est tourné vers la prière. Et du début de la préparation jusqu'au départ vers Tabouk, il a fait cette invocation. « Ô mon Seigneur, si ce petit groupe est détruit, il n'y aura plus personne sur cette terre pour t'adorer. » Il est étrange de constater que cette même prière a été mentionnée lors de la première bataille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment la bataille de Badr, ainsi que lors de sa dernière bataille. Quoi qu'il en soit, malgré la chaleur intense, malgré le voyage qui était très long, malgré de nombreux problèmes et la propagande des hypocrites, une armée immense de 30 000 hommes a été préparée. Il y avait 10 000 cavaliers dans l'armée. C'était la plus grande armée jamais réunie pour une bataille au cours de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le nombre de soldats dans l'armée varie selon les différentes traditions. Selon un récit, on trouve mention de 40 000 hommes. Un autre récit évoque également 70 000 hommes. En tout cas, le saint prophète était accompagné de 10 000 cavaliers ou 10 000 chevaux ou 12 000 selon certains. Les historiens s'accordent sur le chiffre de 30 000. La plupart d'entre eux considèrent le récit de 30 000 hommes comme exact. Il s'agit d'une estimation car, à cette époque, il n'existait pas de registre ou d'archives pour le recensement des combattants, contrairement à ce qui s'est mis en place plus tard sous le califat des Rachidounes. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a ordonné aux Ansar et à chaque branche des tribus arabes de confectionner un petit drapeau ou un grand drapeau. Lors de la bataille de Tabouk, le saint prophète a confié le plus grand drapeau à Abu Bakr. Il a également offert d'autres drapeaux à Zubair, à Usayd bin Hudair, à Abu Dujana, et selon certains récits, il en a offert également à Hubab bin al-Munzir. À cette époque, lorsqu'on entreprenait un voyage en caravane, on engageait toujours un guide expérimenté qui connaissait parfaitement les routes. Pour l'expédition de Tabouk, il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait désigné Al-Kama bin Farwa al-Khuzai et son père comme guide. Il maîtrisait très bien les itinéraires et savait choisir le chemin le plus sûr et le plus rapide. Ka'b bin Malik relate que le saint prophète, paix soit lui, est parti pour l'expédition de Tabouk un jeudi. Il aimait voyager le jeudi. Conformément à la pratique générale, les gens commençaient à se rassembler à Thinatul Wida, à une certaine distance de Médine. Lorsque les préparatifs étaient terminés, le saint prophète, paix soit lui, a quitté Médine pour Tabouk. Le chef des hypocrites, Abdullah bin Ubay bin Salul, dans une dernière manœuvre d'hypocrisie, avait également installé un camp avec une armée au pied de Thinatul Wida sur le mont Zuba, donnant l'impression qu'il était également prêt à partir pour Tabouk avec les musulmans. Mais dès que le saint prophète, paix soit sur lui, a ordonné à l'armée de se préparer, Abdullah bin Ubay, avec son armée, une armée qui était assez nombreuse, dit-on, est retourné à Médine en disant que ces musulmans considéraient la guerre avec les Romains comme un jeu. Abdullah bin Ubay est venu en disant que ce n'était pas un jeu et que les Romains étaient un très grand empire. Il a dit que voyager aussi loin, dans une chaleur aussi intense, dans ces conditions aussi difficiles, n'était pas quelque chose de sage. Il a dit que je vois les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prisonniers aux mains des Romains. Sur ces mots, il est parti de là. Son espoir était de décourager les musulmans, et dans son illusion, il croyait que certains musulmans allaient peut-être abandonner le saint prophète, paix soit sur lui, mais comme toujours, il retournait bredouille et déconfit. Il avait fait la même chose lors de la bataille de Houd. Il avait accompagné l'armée musulmane à une certaine distance avant de rebrousser chemin avec ses 300 compagnons. Alors que les musulmans étaient initialement un millier et il ne restait plus que 700. Et c'était une grande armée. Quoi qu'il en soit, il est dit aussi qu'un esclave avait participé à cette bataille sans la permission de son maître. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en a eu connaissance et il a réprimandé cet esclave qui s'était enrôlé sans la permission et il lui a ordonné de retourner auprès de sa maîtresse. Selon les récits, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu lors d'une halte à Thinatul Wida un esclave armé, un esclave qui était venu sans la permission de sa maîtresse. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a ordonné à cet esclave de retourner auprès d'elle. Il l'a questionné et l'esclave a répondu qu'il était venu sans sa permission. Et il a dit de rentrer et il a ordonné de ne pas participer à la bataille. Il a dit que si tu es tué lors de la bataille, tu iras en enfer. Autrement dit, l'honnêteté et la loyauté exigent que l'on demande la permission à son maître. Quoi qu'il en soit, Inch'Allah, je citerai plus de détails sur cette expédition plus tard. Pour l'instant, j'évoquerai certaines personnes qui sont décédées récemment et dont je dirigerai les prières funéraires. La première mention est celle du vénérable Ghulam Mohinuddin Sulaiman Saib, missionnaire de la communauté en Indonésie. Il est décédé ces derniers jours à l'âge de 77 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son grand-père, Haji Damini Saheb, avait fait allégeance sur les mains de Maulana Rahmat Ali Saheb en 1932. Après ses études élémentaires, le défunt s'est rendu à Rabwah pour poursuivre ses études. Et il a été admis à la Jamia. À Rabwah, il a été enrôlé dans une classe spéciale. Et il a passé l'examen Shahadatul Ajanib et il est retourné en Indonésie en juillet 1985. Il avait passé cet examen à l'époque du 4e calife. Le 4e calife l'a posté à Jakarta et dans diverses villes de l'Indonésie. Et il a travaillé également comme missionnaire régional. De même, il a été membre de comités centraux. Il a servi à la communauté pendant environ 40 ans. Il laisse derrière lui deux fils et une fille. L'un de ses fils est Muslihuddin Ahsan Saheb, qui sert comme missionnaire de la communauté. Il est également posté à Rabwah, en Indonésie. Tous ceux qui ont rencontré le défunt, tous ses proches, ont témoigné qu'il était une personne sincère, simple et très aimante. Sa vie a toujours été vouée au service de la religion, de la Jamaat et au bien-être des autres. L'humilité, la douceur et le respect des principes étaient des traits marquants de sa personnalité. Quiconque le rencontrait était touché par sa sincérité, par sa simplicité. Ses services dans le domaine de l'éducation et de la formation morale sont considérables. Il a toujours accordé de l'importance à la morale autant qu'à la connaissance et il s'est constamment soucié de préparer la nouvelle génération sur des bases de bon caractère et de foi. Il a également participé de tout cœur à l'œuvre de la propagation et il a toujours transmis son message avec sincérité, dignité et amour. Il était profondément attaché au califat, sa loyauté était exemplaire. C'était un homme qui s'en remettait à Dieu. Durant ces derniers jours, il a fait preuve d'une grande patience et une grande constance. Il était malade, mais il ne s'était même pas plaint, et il a toujours exprimé sa gratitude envers Dieu. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde aux défunts son pardon et sa miséricorde. Le prochain hommage sera celui du vénéré Dr. Mohamed Shafiq Segal Saheb. Il a servi comme émir du district de Multan, ensuite comme Naïb Wakilu Tasnif du Tahrik Jadid Arabwa. Il est décédé récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le défunt était par la grâce d'Allah un moussi. Il laisse derrière lui trois fils. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son regretté père, Mia Mohamed Omar Segal, qui s'était converti à l'Ahmadiyya durant le deuxième califat. Le défunt était docteur en sciences. Après son baccalauréat, il s'était présenté pour servir la communauté et il avait dédié sa vie. Et Hadrat Muslim Aoud lui a conseillé de poursuivre ses études. À cette époque, il était prévu de créer le centre de recherche Fazle Omar. Quoi qu'il en soit, le défunt s'intéressait aux sciences et il a obtenu une maîtrise en chimie là-bas au Pakistan. Par la suite, il a fait un doctorat en chimie ici au Royaume-Uni. Il a également l'honneur d'avoir eu comme professeur un lauréat du prix Nobel. En tout cas, l'Institut n'était pas prêt lorsqu'il est retourné. C'est pour cette raison que le Muslim Aoud ne l'avait pas placé là-bas. Il était sans emploi et son père a demandé l'autorisation qu'il l'aide dans ses affaires en attendant que la communauté ait besoin de lui. Ainsi donc, il a rejoint son père dans ses affaires. Mais il a également eu l'opportunité de servir en différentes capacités la communauté. Il a servi pendant 14 ou 15 ans en tant qu'émir du district de Multan. Il était membre du Furqan Force. À l'époque du quatrième calife, il y avait une longue querelle à Calcutta entre deux familles dont ses proches étaient impliqués. Le quatrième calife avait envoyé là-bas le défunt pour enquêter et pour former une commission, et le défunt a résolu l'affaire avec beaucoup de tact. Feu le quatrième calife lui avait dit qu'il savait qu'il ne tiendrait pas compte de ses liens de parenté et qu'il prendrait une décision avec une grande honnêteté. Et c'est ce qui s'est passé. En 1991, suite aux instructions du quatrième calife, le défunt s'est rendu en Ouganda où il devait installer une huilerie. Il avait supervisé l'installation de l'huilerie et il a également reçu diverses responsabilités dans trois autres pays d'Afrique et dans un pays européen, des responsabilités qu'il a menées à bien. Ce sentiment l'a toujours dominé, même lorsqu'il dirigeait sa propre entreprise. Il possédait une grande huilerie à Multan pour la production d'huile comestible. Mais ce sentiment était toujours prédominant chez lui, notamment qu'il était un Waqf-e Zindagi, et il sacrifiait même ses engagements commerciaux pour les travaux de la communauté. Quoi qu'il en soit, en 2003, il m'a écrit en disant qu'il souhaitait désormais se consacrer au Waqf et il voulait consacrer le reste de sa vie au service de la communauté et je l'ai nommé Naïb Wakil Tasnif dans le cadre du Tahrik Jadid. Il était instruit, il possédait une bonne moralité et une bonne connaissance religieuse, c'est pourquoi il accomplit ce travail avec une grande compétence. Son fils Mahmoud Segal Saab déclare: le défunt a eu la grâce de mener une vie active, pleine de sens et de dévotion. La récitation du Saint-Coran et la méditation sur ces thèmes étaient également une de ses qualités particulières. La plupart de ceux qui ont déploré son décès ont déclaré qu'il avait un tempérament très doux, qu'il était très compatissant, qu'il était rempli d'un sentiment de sincérité. Il était aimant et son approche pour guider et pour former les autres était très attachante. Son fils ajoute, il nous exhortait toujours à obéir au système de la Jamaat. et il nous disait d'exprimer notre opinion dans les forums appropriés et de ne pas parler partout, notamment si vous voyez quelque chose qui nécessite une correction. Il disait toujours de ne pas regarder les gens, de ne pas regarder les responsables. Il disait que vous avez prêté allégeance au calife et cela suffit. Ayez cela en tête que toute votre relation est avec le calife de l'époque et vous devez remplir votre serment de fidélité envers lui. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le troisième hommage sera celui de Mukarrama Bushra Parvez Minhas Sahiba, épouse de Parvez Minhas des États-Unis. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la fille de Chaudhry Fazal Ahmad Saeb, ancien directeur de Karimnagar Nusratabad, à la ferme de la Jamaat. Avant son mariage, la défunte a beaucoup servi au sein de la Lajina de la communauté à Hyderabad dans le Sindh. Elle a également vécu à Rawalpindi où elle a servi la Jamaat. Elle était partie aux États-Unis avec son époux. Elle a également servi comme présidente de la Lajna à Rawalpindi. Et lorsqu'elle s'est rendue aux États-Unis d'Amérique, elle a également eu l'opportunité de servir comme vice-présidente dans ce majlis là-bas aux États-Unis. Fervente pratiquante de la prière et du jeûne, elle se levait pour les prières de Tahajjud et avait confiance en Allah. Elle était une ardente défenseure du califat. Elle était accueillante, sociable, bienfaitrice pour les autres et protectrice des pauvres. Elle était une femme très pieuse et sincère. Elle participait régulièrement aux dons et prenait une part active aux sacrifices financiers. Elle avait un lien profond avec le califat. Elle m'écrivait des lettres pour demander des prières. Elle était moussia, elle n'avait pas d'enfants, mais se montrait très affectueuse envers les enfants des autres. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر